qui accélère. Jean-Baptiste Doudou qui termine. Jean-Baptiste Doudou est champion du monde.
Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça.
Regardez, regardez l'équipe de France qui fait la saga.
Attention. Saga Africa. Ambiance de la
France. Has the power to change the world. It has the power to unite people.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. L'émission est dorénavant labellisée Grande Cause Nationale 2024 par le ministère des Sports et Jeux Olympiques et Paralympiques. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Vous retrouverez les podcasts sur l'application Cause Commune et l'application Apple Podcast sur le site et les réseaux sociaux. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter X Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Depuis le début de l'année, à l'approche des Jeux, nous nous intéressons aux sportifs de haut niveau. Nous avons notamment abordé la question des jeunes espoirs et de leur entourage, de l'engagement, de la santé mentale, la reconstruction pour certains par le sport. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous pouvons tirer de leur parcours. Beaucoup de jeunes rêvent d'être des champions. On l'a vu également, beaucoup de parents rêvent que leur enfant parvienne au plus haut niveau pour de bonnes ou mauvaises raisons. Nous savons que dans quelques jours, beaucoup vont nous faire rêver. Et tout politique, tout chef d'entreprise voudra son selfie avec un médaillé olympique. Mais au-delà de cette admiration, que peuvent-ils nous inspirer au grand public, au monde professionnel? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont performé au plus haut niveau? Comment peuvent-ils utiliser au mieux leurs talents? Comment préparer l'après-Jeux Olympiques et Paralympiques? Nous avons eu des plateaux très féminins sur les besoins de préparation à la reconversion, notamment avec Véronique Barré, Pauline Cambi, Maud Mongelas, Brigitte Dédier, Heidi Aron. Aujourd'hui, c'est un plateau masculin. Nous ne les avons bien sûr pas choisis pour cette raison, mais pour leurs projets actuels. Des initiatives qui vont nous éclairer et permettre aux sportifs de haut niveau, mais aussi aux sociétés, c'est-à-dire aux entreprises, à la société également, nous tous, d'aller plus loin. Pour répondre à ces questions, quatre invités avec nous en studio. Nous avons ainsi le plaisir de recevoir Michael Romzy. Bonjour Michael.
Bonjour Karine.
Tu es directeur des programmes sport et sportifs de haut niveau à l'UM Lyon, co-auteur de « Dans la tête des champions » qui vient de paraître aux éditions d'Uno. Livre que tu as co-écrit avec Thierry Pic, que nous sommes heureux d'accueillir également. Bonjour Thierry.
Bonjour à tous.
Tu es donc co-auteur de « Dans la tête des champions ». Auparavant, tu avais été co-auteur également du livre « L'art de la performance » paru en 2021 aux éditions d'Uno. Tu es professeur à l'EM Lyon. Tu as été directeur académique de l'école pendant 6 ans. Et tu es d'ailleurs à l'origine du programme de la filière sport de l'école. Tout ça, c'est juste?
Oui, oui, un des acteurs. On est plusieurs, évidemment, à lancer des programmes, mais un des acteurs, en tout cas.
Très bien. Et nous avons la chance d'avoir avec nous une personnalité du livre, un champion en question, Gary Florimont. Bonjour, Gary.
Bonjour, Karine. Merci beaucoup de me recevoir.
Tu es ancien basketteur de haut niveau. Tu as fait près de 20 ans Pro A et Pro B, champion de Pro B avec Poitiers. Alors, c'est une période très basket actuellement sur Cause Commune, puisqu'on a reçu Richard Dacoury il y a 2 émissions et Pauline Ekambi dans la dernière. Mais on aime bien ce sport, on en parlera d'autres aussi. Tu as également fondé la plateforme Atléo, qui accompagne les sportifs de haut niveau en reconversion, dont on aura l'occasion de parler bien sûr. Nos auditeurs fidèles t'ont d'ailleurs déjà entendu brièvement dans l'émission, dans le film de Véronique Barré, Le sport des médailles et après, dans lequel tu interviens avec beaucoup de justesse. Mais là, on va aller un peu plus loin. Je suis contente d'avoir avec nous également, enfin, Simon Chaussande. Bonjour Simon.
Bonjour Karine, bonjour à tous, très content d'être là.
Alors toi, tu es encore étudiant à HEC en fin de parcours, mais tu es surtout entrepreneur, cofondateur et DG de Wade, créé en 2022 et qui est devenu en un an une des meilleures prépas de France, prépa économique et commerciale. Et tu viens nous présenter un nouveau programme pour les sportifs de haut niveau et artistes, Wade School Talents. Talents, je suppose, c'est en anglais tout.
Talents, en français aussi.
En français, ça marche aussi. Ça va. Un très grand merci à Jérôme Sorel pour la réalisation de cette émission. Et alors, on va commencer à parler du livre. Alors, dans notre générique, on utilise les mots de Nelson Mandela, on utilise sa voix aussi d'ailleurs, où il dit que le sport a la capacité de changer le monde. Vous en parlez aussi en introduction, vous utilisez cette phrase. Et la suite, il a le pouvoir d'inspirer, le pouvoir d'unir, comme peu d'autres peuvent le faire. Alors, est-ce que c'est la base de ce livre? Pourquoi ce livre, Michael?
C'est vrai qu'au départ, quand on a parlé de ce projet-là avec Thierry, on s'appuyait sur effectivement notre expérience d'accompagnement des sportifs de haut niveau à l'école. Donc comme Simon le crée aujourd'hui, nous c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on avait initié les programmes d'accompagnement pour les sportifs de haut niveau en formation pendant leur carrière et après leur carrière. Et puis au fur et à mesure des suivis individuels qu'on a pu opérer avec eux, on a toujours identifié des points remarquables, des éléments déclencheurs, des rencontres, des choses dans leur histoire de vie qui font que finalement, en capitalisant là-dessus et en avançant dans leur projet, on se dit que finalement il n'y avait pas de hasard sur le fait qu'ils arrivent à la haute performance. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de mettre en mots toutes ces histoires de vie inspirantes, finalement pour que nous, monsieur et madame tout le monde, dans notre propre vie personnelle, professionnelle, quand on rencontre un obstacle, quand on fait face à une difficulté, qu'on puisse s'inspirer de ce que ces grands champions ont réussi à mettre en place dans leur parcours pour pouvoir nous aussi, à notre tour, franchir un cap.
Alors Thierry, le livre, il y a trois grandes thématiques, des regards croisés, plusieurs chapitres. Tu peux nous dire un peu comment il fonctionne, comment vous l'avez voulu ?
Le livre a une ligne éditoriale qu'on juge assez innovante quelque part, puisqu'elle consiste effectivement à recueillir des trajectoires de vie de sportifs. On parle pas forcément de tout, on parle d'ailleurs assez peu des médailles, des victoires, mais plutôt des éléments de vie marquants en longitudinal sur un format très court qui est 4 pages, parce qu'on essaye de s'adapter aussi au format de lecture aujourd'hui, qui est tout de suite attirer l'attention et puis garder le suspense avec cette idée un peu de storytelling qui rend l'histoire attrayante, voire un peu spectaculaire, même si on ne cherche pas le spectacle pour le spectacle.
On voit qu'on est dans une école de marketing.
Non, je pense que c'est des modes de consommation aujourd'hui. Donc, rendre attractif et intéressant et questionnant un récit. Un regard croisé porté par un dirigeant, par un expert ou par un autre sportif qui connaît bien la personne interrogée et qui, en 2 pages, va permettre au lecteur de dire qu'est-ce que moi je trouve intéressant. Donc de prendre du recul et de se questionner par rapport à cette histoire. Et puis Mickaël et moi, on a terminé avec pareil 2 pages très rapides où on met à disposition du lecteur un certain nombre de pistes, de réflexions, voire de questions, surtout pas de réponses toutes faites, mais vraiment voilà ce qu'on vous suggère nous peut-être de prendre. À vous maintenant de continuer l'histoire et notamment de vous l'approprier par rapport à votre propre histoire. Donc on a 18 chapitres comme ça, globalement regroupés entre des éléments d'apprentissage sur l'individu, l'engagement, le parcours de vie, individuels, des parcours liés à des problématiques d'équipe, de leadership, d'intégration dans des équipes, etc. Et puis une troisième partie autour de l'engagement dans la société avec des belles histoires de sportifs engagés ou de clubs qui agissent aujourd'hui pour le développement de la société au sens large.
Alors, on a la chance d'avoir une des personnalités de la deuxième partie du livre, Gary. C'est des témoignages à la première personne, c'est ton témoignage donc, qu'on lit. Est-ce que tu peux nous raconter ce dont il est question? Donc, on est dans la partie apprendre des autres et du collectif, hein, c'est ça?
Oui, c'est
mais,
ça. C'est
mais je pense que c'est intéressant que tu nous parles de tout le parcours.
Oui, bien sûr. Déjà, je tiens à souligner à quelque chose que tu as dit qui était hyper intéressant, c'est que tous les chefs d'entreprise voudront leur selfie. Ça m'a fait sourire.
C'est faux.
C'est très vrai et en fait ça prouve quelque part que les sportifs, nous les sportifs, on est placés quand même à une certaine position sociale assez intéressante et on a les regards braqués sur nous et finalement on se rend compte que le grand public ne connaît pas en fait de quoi vraiment est composé un sportif de haut niveau et j'en parlais encore tout à l'heure avec Mickaël et ce livre en fait c'est vrai que quand je regarde les titres de chaque prise de parole de chaque athlète qui ont participé, c'est le livre de chevet que j'aurais aimé avoir moi au centre de formation, parce que finalement quand on reprend le déroulé en fait de chaque intervention, on se rend compte que c'est ce qui compose finalement une carrière en fait de haut niveau, même pas dans le sport. Je pense que même pour un chef d'entreprise, toute personne qui cherche à s'accomplir, à performer dans un domaine, dans une passion, c'est finalement en fait des défis auxquels il est confronté. Donc moi j'ai été très honoré et je suis encore très honoré de partager en fait ce livre avec d'aussi grands champions. À certains moments, j'ai même limite le syndrome de l'imposteur, me dire que est-ce que je vraiment, quand je vois Marie-Josée Pérec, c'est toute mon enfance, j'ai envie d'appeler mes parents et dire ça y est, je l'ai fait en fait, parce que voilà, c'est une Guadeloupéenne comme moi qui a bercé toute une génération et ça veut vraiment dire quelque chose pour moi d'apporter en fait aussi ma pierre à l'édifice à côté d'elle entre autres, hein. Mais ce C'est vrai que cette démarche que Mickaël et Thierry ont entreprise, je trouve que c'est quelque chose qui manquait non seulement pour le grand public, mais aussi pour les athlètes. Un espèce de d'annuaire, en fait, de vie qui condense, des situations de vie que tous les athlètes connaissent finalement et qui nous paraissent si anodines parce que finalement, on vit notre quotidien, on enchaîne les entraînements, les compétitions, les défaites, les succès et on n'a pas l'occasion, en fait, de faire ce feedback. En se posant la question, mais est-ce que c'est normal finalement ou est-ce que c'est différent? Ça s'enchaîne tellement vite qu'on n'a pas le temps de faire cette analyse. Et moi, en relisant mon récit, c'est vrai que c'est ce que je disais à Mickaël juste avant, ça m'a fait un choc parce que j'ai déjà entrepris ce genre d'exercice de revenir sur ma carrière, notamment sur des validations d'acquis d'expérience, des coachings, notamment avec Véronique. Et c'est vrai que de lire, on prend la mesure en fait des efforts qui ont été générés pour pouvoir avoir cette carrière, alors aussi grande ou petite soit-elle, mais ça me ressemble, ça me raconte. Et ouais, je suis fier.
Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu encore, mais qui vont bientôt le lire, le livre, est-ce que tu peux nous parler? Alors, moi, quand j'ai lu ton parcours, je me suis dit, mais j'ai fait un mois une émission avec Pauline Ekambi, et à part qu'elle a vécu des traumatismes, heureusement, dont tu ne parles pas.
Bien sûr.
Mais il y a plein de choses que j'ai retrouvées sur la précarité, le racisme d'arriver, la solidarité aussi au moment de la détection, à l'arrivée au CREPS pour l'INSEP. Bon, est-ce que tu peux nous raconter tout ça?
Si je dois raconter, j'ai pas envie de spoiler,
t'es pas obligé de tout dire.
Je veux pas tout dire. mais c'est l'histoire d'un gamin, je pense, comme il y en a plein d'autres dans les centres de formation en France métropolitaine, qui quitte son île. En l'occurrence, moi, c'est la Guadeloupe, pour toucher son rêve du bout des doigts, venant d'une famille d'agriculteurs, donc pas du tout proche du sport. Donc apeuré aussi de laisser partir le premier d'une fratrie vers la métropole pour un avenir en fait incertain. Moi, j'ai dû batailler déjà en fait. Ma première bataille dans ce récit, elle commence avec mes parents que je dois convaincre de me faire confiance pour venir vivre ce rêve-là. Moi, à l'époque, je suis en Guadeloupe. Il y a la NBA, mais avec les chaînes payantes et moi, je connais Jim Bilba, qui est un Guadeloupéen comme moi, qui est à l'époque capitaine de l'équipe de France. Et c'est mon seul repère avec le sport de haut niveau, en tout cas le basket en métropole. Donc, c'est armé avec une ambition, un mirage, on va dire, puisque finalement, le parcours, il est tellement complexe qu'on l'imagine, mais on l'appréhende pas du tout. Et s'en suit une suite de rencontres où vraiment, c'est de ça dont on parle dans le livre, en tout cas sur mon passage, c'est le rapport avec le collectif, en fait, l'affirmation de soi à travers les autres. C'est vraiment de ça dont on parle. Ça me caractérise. Le sport de haut niveau m'a permis d'avoir une famille élargie, une famille plus, parce que je raconte mes difficultés, parce que j'avais pas de famille en métropole quand j'arrive, de la solitude, même si la Guadeloupe c'est français, mais à part la langue, il y a une différence culturelle, alimentaire, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que le gustatif, c'est un sens, et ce n'est pas pour rien, c'est aussi un repère, et c'est vrai que c'est tout est bouleversé, mais là je trouve des amis, des frères. J'ai un frère, mais finalement le sport m'a offert énormément de frères à travers les années. Mais au centre de formation, là en fait, on voit en fait qu'il se passe une espèce de un égrégore. J'en parle de l'égrégore, c'est un mot qui est très puissant pour moi que j'ai découvert pour ce que j'arrivais pas à expliquer pendant ma période de dépression, parce que j'ai connu une période de dépression, le manque du collectif. C'est-à-dire que une blessure m'a extirpé du collectif et en fait l'égrégore, en fait cette communion qu'on ressent, c'était ma raison d'être, c'était mon carburant. Je le dis dans le bouquin, dans mon passage, c'est que j'ai jamais été quelqu'un de talentueux. Je me suis toujours affirmé dans le regard des autres. Et c'est vrai que quand on a un gamin de 15 ans, on arrive en métropole avec un objectif, mais sans vraiment un parcours défini, et qu'on trouve des frères, on trouve une famille, c'est quelque chose qui est lourd de sens. Et c'est ce qui a conditionné ma carrière, c'est cette quête du don de soi, du don collectif dans ce saut commun. Et c'est comme ça que je me suis forgé. Donc, on parle de ça dans le bouquin. J'ai pas envie d'en dire trop.
Alors, on n'en dira pas plus. Ça, c'est toi qui es maître de cette partie. T'auras encore la parole sur d'autres choses, mais tu es maître sur cette partie. Alors, tu parlais de Marie-Josée Pérec. C'est un des personnages de la troisième partie sur la cause. Nous, on est beaucoup sur les enjeux sociétaux ici. Elle parle de causes qu'on défend, évidemment. Est-ce que l'un de vous deux peut parler du témoignage de Marie-Jo?
Le témoignage de Marie-Jo, déjà, c'est un bon moment, rencontrer Marie-Jo et avoir l'opportunité de passer un moment avec elle. Alors, tout a été écrit sur elle, hein, par rapport à ses victoires, voilà, elle a marqué l'histoire de l'athlétisme. Hein, donc, avec Michael, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va chercher d'un peu différent, peut-être que les gens ne connaissent pas, voilà, et qui va surtout nous donner à réfléchir au-delà des étoiles dans les yeux. Hein, donc, on est arrivé au travers de sa trajectoire, hein, à finalement pourquoi, c'est pourquoi elle se bat, quelle est sa cause, quelque part, hein. Et qu'est-ce qui la pousse à gagner ses médailles et à surmonter l'ensemble des obstacles qu'elle a pu passer, etc. Donc là aussi, je veux pas trop spoiler, mais ça remonte à son enfance, hein, à sa vie effectivement en Guadeloupe, à ce qu'elle a connu, à l'influence de sa grand-mère, à son arrivée à la métropole, tout un ensemble d'éléments finalement qui sont des épreuves de la vie que chacun peut vivre, hein, à sa façon, dans son métier, dans son domaine, etc. Mais qui forge, alors je pense, ses champions, voilà, une volonté exacerbée. Et puis une capacité à se dépasser, parce que Marie-Jo, elle a aussi cette caractéristique d'être finalement un peu timide, d'avoir souvent peur avant des courses. Hein. Et il y a ce déclic-là qui fait qu'elle devient la meilleure du monde en un claquement de doigts, parce qu'elle se transforme, parce que mue par sa cause, mue par sa volonté. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous aller chercher chez soi. Pas forcément pour être champion du monde, mais dans des situations difficiles, comment on va être capable de retourner une situation et d'aller chercher au plus profond de soi-même et de son histoire les ressources et les ingrédients. Et là, je pense qu'il y a une leçon très intéressante au-delà de l'histoire de Marie-Jo qui questionne tout un chacun.
Oui, je trouve qu'en plus, ça éclaire parce qu'on l'a tous vu hésiter, mais se transcender. Et ça, elle explique vraiment ce qu'elle a cherché. On peut être plusieurs à avoir cherché, mais pas forcément pour le même résultat. Et puis, alors, autre témoignage là, de la première partie, il y a celui d'Alice Modolo. Et de son partenaire Bertrand Bailly. Est-ce que l'un de vous deux, Michael, tu veux en parler? Ou Thierry? C'est Thierry qui a...
Oui, encore une histoire absolument exceptionnelle, hein, Alice Modolo. Alors, on va aller chercher là aussi dans son enfance un certain nombre de...
Peut-être rappeler qui elle est, parce qu'elle est moins connue.
Elle est moins connue, mais j'y viens. Alice Modolo, c'est une chirurgien dentiste. Voilà, née à Clermont-Ferrand et travaillant dans son cabinet dentaire à Clermont-Ferrand. Voilà, que rien ne présageait de se rapprocher de l'environnement maritime, sauf qu'elle a découvert par hasard l'apnée. Et alors je vais aller très très vite sur son histoire, hein, mais elle est plutôt douée et plutôt bonne. Et plus elle s'entraîne, moins elle fait de performance. Et elle s'aperçoit que quand elle s'arrête, notamment parce qu'elle a des soucis de vie, des bifurcations dans sa vie professionnelle, bah finalement quand elle reprend, elle est meilleure que quand elle s'est arrêtée. Donc elle se pose un certain nombre de questions sur ses ressources. Alors c'est pas des ressources sportives, elle a le mal de mer. Elle le dit elle-même, elle a une petite capacité pulmonaire, elle n'est pas du tout faite pour le milieu aquatique quelque part, mais du coup elle se dit j'ai quelque chose en moi et on l'a tous qui va me donner une force qui n'est pas de l'entraînement sportif, et elle découvre que la respiration et le mental sont des éléments clés chez elle qui conditionnent en fait sa performance. Donc elle se spécialise, j'allais dire, dans la compréhension des mécanismes de respiration, elle travaille avec des spécialistes de la méditation, son mental, etc. Et elle a lâché son métier de chirurgien dentiste à 35 ans pour être apnéiste professionnelle. C'est la première femme à être descendue à moins 100 mètres de profondeur. Hein. Et elle nous explique dans le livre que se mettre dans un milieu angoissant, très anxiogène, c'est finalement pour elle une façon de retrouver la liberté, et que c'est évidemment le chemin qui compte et pas tant la performance, et qu'on a tous un potentiel, notamment sur la respiration, qui est complètement inexploité. On nous a jamais appris à respirer, mais on nous a jamais appris à visualiser, à réfléchir à notre mental, etc. Donc c'est vraiment une leçon en disant on a tous des ressources complètement inexploitées chez nous, il faut absolument essayer de les travailler, de les découvrir et de s'inspirer de ceux qui ont fait ce parcours.
Et puis il y a le témoignage aussi de son partenaire, et je trouve que c'est aussi intéressant parce qu'il envisage le partenariat, justement pas le selfie, mais pour qu'il y ait une cohérence avec la vision de l'entreprise.
Exactement, grosse entreprise de conseil qui ne fait pas de partenariat sportif et qui ne travaille pas avec Alice pour de valoriser auprès de ses collaborateurs. Donc il y a très peu d'événements internes, mais simplement effectivement pour soutenir aussi une cause avec une association extérieure dont Alice est la marraine, et puis pour soutenir une belle histoire de vie. Et je me dis, l'entreprise, elle a aussi peut-être comme vocation, au-delà de ses résultats économiques, de soutenir des beaux projets, des belles aventures entrepreneuriales, des belles histoires, et de participer finalement à un mouvement positif et constructif du monde. On a assez d'informations anxiogènes en ce moment. Hein,
on n'est pas contre ici. Alors on va faire une pause musicale avec le choix de Gary. Est-ce que tu peux nous rappeler ton choix et pourquoi tu l'as choisi?
Déjà,
tu t'en souviens?
C'est
Feeling Good.
Ouais, Feeling Good, c'est ça.
De Nina Simone.
figurez-vous que c'est pas forcément ma chanson préférée, mais c'est celle de ma mère. Et du coup, ça me rappelle les dimanches matins où elle mettait la musique à fond. Entre ça et du Compay Segundo, Buena Vista Social Club, ça a bercé le dimanche où elle faisait le ménage en musique. Et généralement, c'était souvent suivi de bonne odeur parce qu'elle préparait des bons petits plats. Donc en fait, c'est un moment assez agréable pour moi d'écouter ça parce que c'est plein de, encore une fois, un rapport avec les sensations. Tout à l'heure, on parlait du je suis très gourmand finalement. je parle beaucoup de l'aspect culinaire. Mais en fait, quand j'écoute cette chanson, j'ai plein de choses qui me reviennent. J'ai le soleil de la Guadeloupe, j'ai les odeurs, j'ai aussi les bonnes vibes de ma maman, en fait, le dimanche. Et ça me fait du bien.
Eh bien, alors, on écoute la musique de ta maman, Feeling Good de Nina Simone.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good.
Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Notre émission est sur le parcours hors norme des champions qui peuvent paradoxalement inspirer tout le monde et peuvent être particulièrement performants en dehors de leur carrière sportive s'ils sont accompagnés. Nous sommes toujours en studio avec deux co-auteurs de Dans la tête des champions qui viennent de paraître aux éditions d'Uno. Il s'agit de Michael Romsey, directeur des programmes sport et sportifs de haut niveau à l'EM Lyon, et Thierry Pic, également co-auteur de L'art de la performance, paru en 2021 aux éditions d'Uno. Ils sont accompagnés de Gary Florimont, l'un des protagonistes du livre, ancien basketteur de haut niveau, fondateur de la plateforme Atléo, et de Simon Chaussande, étudiant à HEC en fin de parcours, mais surtout entrepreneur, cofondateur et DG de Wade, et notamment de Wade School Talents. Donc, on va parler maintenant un peu de la reconversion, autre thème important pour vous tous. Gary, qu'est-ce qui a provoqué chez toi la bascule, l'envie d'être chef d'entreprise? Tu me disais avant l'émission qu'il y a eu un moment pendant tes études.
Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Mickaël lors d'un accompagnement par Véronique Barret. Sur justement un coaching, sur un retour un petit peu sur ma carrière et puis les compétences développées pendant ma carrière. Donc du coup, ça a été une évidence en fait. Et puis aussi Thierry qui est aussi avec nous, bien évidemment. Ça a été, Thierry, je t'ai pas eu comme prof, je pense. Non, je t'ai pas eu, malheureusement.
Il faut recommencer.
Ouais, faudra recommencer mon MBA peut-être, non. Mais non, ça a été une évidence. EM Lyon, comme je te dis, j'étais dans une période de doute suite à une blessure, une rupture du tendon d'Achille. J'avais fait une dépression parce que j'avais vécu très mal en fait l'isolement du collectif. Finalement, ça me caractérise vraiment. Et EM Lyon, ça a été le coup de boost en fait dans ma carrière de sportif. Et je dis bien de sportif parce que reprendre mes études à EM Lyon, me rendre compte que j'ai été valorisé, que une école de standing en fait reconnaissait finalement mon profil et m'intégrait pleinement en fait à sa vision, à ses parcours, c'était quelque chose déjà de j'étais hyper fier de moi. Je me rappelle quand j'ai eu le mail de validation pour rentrer dans l'école, j'étais comme un fou. Je pense que entre mon titre de champion de France avec Poitiers et ça, je pense que c'était les moments vraiment importants de consécratisation personnelle. Parce que ça voulait dire une nouvelle étape, c'est-à-dire une nouvelle étape, un nouveau moi en devenir, en construction. Donc c'était quelque chose d'assez important pour moi. Et puis EM Lyon, ça m'a consolidé des choses, c'est-à-dire que ma carrière de sportif m'avait amené une confiance en moi, mais pas une confiance en l'avenir. Je sais que ça peut paraître un peu particulier de dénoncer comme ça, mais j'avais appris grâce au sport à vivre en fait très très court-termiste en fait, c'est-à-dire que on s'entraîne, tout de suite on se remet en question après l'entraînement, qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qu'on peut changer, et on vit en fait sur des périodes très courtes où on joue tous les week-ends et le lundi il faut revenir et il y a un nouvel adversaire, il y a un nouveau match, une nouvelle performance. Et là EM Lyon m'a donné en fait la capacité de voir plus loin, de pouvoir en fait formuler, concrétiser, modéliser mes idées, mes ambitions, et ça a été pour moi en fait un vrai boost qui m'a donné l'envie d'apprendre. C'est vraiment ça, en fait. Pour moi, l'entrepreneuriat, comme je le considère aujourd'hui, c'est l'envie d'apprendre, de toujours chercher, en fait, à se questionner, à s'améliorer, non plus sur un terrain de basket, mais dans la vie de tous les jours, et toujours porté par une même, en fait, on va dire, toujours un même élément, c'est le plaisir.
Là, c'est bien, on a du teasing pour après ce que tu as entrepris, mais maintenant, on va parler des formations. Alors, on va peut-être parler d'abord de la formation de Lyon avant de passer à celle de Simon. Alors, l'EM Lyon.
Alors, c'est pas tellement pour parler de la formation, mais c'est vraiment pour rebondir sur ce que vient de dire Gary. Donc déjà, je viens de comprendre pourquoi c'est lui que je t'ai soumis pour l'invitation.
C'est un bon élément.
Parce que c'est un très bon ambassadeur. Non, mais c'est surtout, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces sportifs qui arrivent à des moments particuliers de leur carrière sportive, ils arrivent tous à peu près dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils sont des experts absolus dans leur sport, et ils viennent se mettre en danger pour préparer ou anticiper l'après, qui représente quand même finalement une barrière à l'horizon, mais qui est extrêmement, qui peut être traumatisante.
Mettre en danger à court terme pourra être plus en sécurité à long terme.
Et on a besoin de les rassurer parce qu'il y a une espèce d'autocensure entre les compétences développées au travers du sport de haut niveau et les compétences qu'on sera effectivement capable de recontextualiser dans un autre environnement, hors du milieu du sport. Et donc finalement, les gens comme Gary, quand ils viennent, c'est des avions de chasse. Par contre, ils savent pas qu'ils sont des avions de chasse. Et en fait, il faut que nous, on leur donne cette confiance-là en eux, sur les compétences, les connaissances qu'ils ont acquises jusqu'à présent, et qu'on les transforme académiquement et professionnellement en quelque chose qui va être leur réalité d'après. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé accompagner Gary et tous les autres, parce qu'en réalité, ils nous offrent leur confiance, et c'est la même chose quand on les interviewe pour le livre, c'est qu'ils acceptent ils nous remettent quelque chose, ils nous remettent un cadeau. C'est la même chose quand ils rentre en formation, et comme lui il l'a dit quand il a basculé de la Guadeloupe à la métropole, et il a dit que il était en mission par rapport à la promesse qu'il s'est faite et qu'il a faite à ses parents. Et bah globalement, moi, quand j'ai un sportif de haut niveau qui arrive à l'école, je suis dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que je suis en mission par rapport à la confiance qu'il me donne. Et donc notre travail là, il est vraiment de les accompagner à se rendre compte de leur talent, de leur potentiel. Et à la fin, quand on voit quelqu'un comme Gary qui s'est effectivement transformé, hein, moi je me souviens de la première fois que j'étais accueilli à Paris sur les bureaux où t'étais arrivé, et t'étais pas le même Gary qu'aujourd'hui.
J'avais des cheveux à l'époque.
T'avais des très beaux cheveux. Et effectivement, on s'est rendu compte de l'accompagnement aussi que t'as eu avec tes mentors, entreprises, etc. Et la formation. Et globalement, le Gary qu'on a aujourd'hui, moi je le recrute demain parce que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel.
Et donc, il y a une proposition de contrat.
Ouais, je
crois que Il se passe quelque chose.
Non, mais du coup, pour vous dire ça, c'est que c'est une vraie chance pour nous d'accueillir des sportifs et de les accompagner sur toutes les formations, parce que c'est des vraies chances aussi pour les entreprises qui vont les recruter, d'avoir des gens qui ont des compétences assez hors normes. Donc voilà. Donc je vais laisser la parole à Simon, mais je pense qu'il va acquiescer. Mais voilà, nous, on est extrêmement heureux de faire ce travail-là.
Alors, la parole est à Simon.
Complètement, je ne peux que acquiescer. T'as quitté la Guadeloupe à quel âge, toi,
Gary? À 15 ans.
Ah oui,
à 15 ans.
Alors, est-ce que tu nous parles de Wade?
Et ben, je vais rebondir sur ce que tu disais en fait tout à l'heure, justement sur quitter la Guadeloupe. Il se trouve qu'en ce moment chez Wade Prépa, donc sur la version classe préparatoire, on prépare aux oraux pour rentrer en école de commerce. Donc, on espère qu'on en aura encore qui intégreront l'EM Lyon comme ça a été le cas l'année dernière. Et donc on les prépare et donc on fait passer des entretiens de personnalité. Et hier, j'ai passé donc 45 minutes avec Benjamin, qui est un de nos étudiants qui vient de la Guadeloupe, qui n'a rien d'un sportif. Et qui m'a raconté un parcours à peu près similaire au tien, mais sa mission, elle était uniquement académique. Mmh. Et en fait, c'est un peu le point de départ de Wade, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on faisait un métier qui était celui de créer une classe préparatoire différente. Alors, moi, je suis passé par là, donc, mais sans forcément réinventer la roue, et on se posait la question, tiens, comment aller plus loin dans ce parcours, comment valoriser post-bac des étudiants qui en veulent. Nous, aujourd'hui, on est en mesure d'accompagner uniquement ceux qui en veulent d'un point de vue académique, alors qu'en fait, on est persuadé que au niveau des entreprises, en fait, c'est pas les maths à la fin qui compte. C'est la niaque, la volonté, qui on est, est-ce qu'on a des personnes en face de nous. Et ça, évidemment, on se rendait compte que il y avait plein de profils, donc sportifs ou artistes, qui étaient de fait exclus de l'accès aux voies d'excellence. En tout cas, il y avait pas, comme dans d'autres pays, une structuration vraiment massive de l'ensemble des écoles supérieures d'excellence, donc business ou pas. Mais il y a pas une espèce de Ivy League qui recrute sur le sport en France. Et donc participer, la volonté, c'était de participer à notre échelle à un peu modifier la manière dont on va valoriser les qualités extra-académiques, même si nous on défend évidemment le double projet, hein, mais dans l'accès aux études supérieures. Donc c'est pour ça qu'on croit là-dedans. Donc on fait ce qu'on sait faire, à savoir faire de l'excellence académique avec les profs de prépa, etc. Moi je m'inspire de mon expérience en école de commerce pour reprendre aussi ce qui est évidemment bien sur les matières business, marketing, vision, pour amener vers l'entreprise. Mais on voyage effectivement entre ces deux mondes, de la classe prépa et de l'école de commerce, sur ce type d'étudiants qui hésitent en fait, qui sont sur un choix un peu cornélien et qui ont, comme Gary, cette mission, en tout cas qui se sentent en interne, de vouloir tout donner et tout déchirer. Si maintenant c'est le sport, en fait, demain ce sera autre chose, et une entreprise qu'ils intègrent, qu'ils créent, entreprise avec un grand E, quoi, forcément, entrepreneur.
Ah, moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi Wade? Parce qu'au début, j'avais entendu « weird », comme bizarre en anglais, ça me plaisait bien, bizarre. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le nom de Wade, ce que ça veut dire?
Je pose les questions que j'allais poser. Parfait.
C'est une très bonne question. Alors le nom, ça a été un enfer au démarrage. On a vraiment passé des nuits blanches et rempli des carnets sur ça. On voulait pas s'appeler, au départ on est une classe prépa, on voulait pas s'appeler prépa commerciale, etc. Il y a déjà qui ont des noms similaires, et on voulait marquer notre différence dans le nom. Donc Wade, en fait, c'est la racine indo-européenne la plus ancienne pour dire la connaissance.
Ok.
Et donc ça, c'est d'où vient Weiss en allemand. D'une manière dérivée, il y a knowledge qui vient de là aussi. Et donc, c'était la connaissance de soi, la connaissance des autres, la connaissance de générale. Voilà. En tant qu'école, ça nous plaisait. Et en plus, ça étonne les gens. Ça permet de voir s'ils suivent, et ceux qui suivent posent la question.
Ok. Donc je suis, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
On a bien remarqué, et c'est super. Alors, comment vous adaptez les uns et aux autres, justement, à des personnes qui ont un emploi du temps bien rempli, parfois à l'autre bout de la planète? Est-ce que c'est du présentiel, du distanciel? Est-ce qu'ils ont tous les mêmes...
Ils font ça depuis plus longtemps. Donc.
Parce qu'il y en a qui ont des sports d'hiver, d'autres des sports d'été. Enfin, comment on fait?
Eh bien, c'est pas si facile que ça, mais effectivement, l'objectif, et du coup, Simon, tu pourras dupliquer si tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de droit d'auteur. Du coup, effectivement, ouais, on a la nécessité d'adapter les rythmes et la charge de travail par période. Donc, effectivement, tu as raison, il y a des sports qui sont à saisonnalité, donc hiver, été, etc. Il y a des sports co qui ont des calendriers très précis avec des championnats domestiques, locaux et puis toute la partie internationale. Donc nous, on a fait le choix, en fait, si vous voulez, de construire des emplois du temps, en tout cas des parcours de formation qui sont complètement flexibles et adaptables pour les sportifs. C'est eux qui décident à quel moment ils travaillent, à quel moment ils travaillent pas. Ils décident aussi de la charge de travail qui s'impose semaine par semaine et comment ils vont avancer. Et donc, on travaille avec des modalités hybrides qui vont jusqu'à du 100% distanciel, qui vont aussi jusqu'à du 100% asynchrone, puisqu'en fait, on peut pas demander à un sportif d'être présent physiquement ou alors en visio telle heure, tel jour, de manière répétée, puisque de toute façon, souvent, c'est même pas eux qui sont maîtres de leur emploi du temps, c'est en fonction de si on a gagné, si on a perdu, si on a été si on a été bon, si on a été puni par l'entraîneur, etc., etc. Donc on peut pas vraiment programmer quelque chose. Et donc donc nous on a fait un gros travail par rapport à ça sur les modalités pédagogiques de suivi individuel, du beaucoup de tutorat individuel, beaucoup d'accompagnement aussi individuel, beaucoup de possibilités de passer des examens sur des temps différés à distance selon un rythme qui sera construit. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui 350 sportifs de haut niveau à l'école répartis sur plusieurs programmes de formation. Et en réalité, on a 350 emplois du temps différents. Et on a 350 cursus de formation différents, puisque c'est eux qui créent le leur. L'essentiel pour nous, c'est qu'à la fin, ils aient exactement le même diplôme que les gens qui sont là tous les jours à l'école, qui ne sont pas sportifs de haut niveau, qui sont sur des parcours classiques, puisque c'est hors de question pour OM Lyon, et j'imagine pour d'autres écoles, de proposer des discours au rabais, puisque quand on accompagne un sportif sur nos formations, c'est quand même le nom de OM Lyon qu'on engage. Et il faut que ce niveau d'excellence et de qualité, il continue d'être perçu chez les recruteurs. Et encore une fois, avec ce type de public-là, on sait qu'on va faire mouche à chaque fois, hein, parce que ils vont être académiquement valorisés par un parcours EM Lyon et un programme qui est reconnu. Et en plus, ils sont porteurs des valeurs du sport, des compétences liées au sport. Et en fait, on se dit finalement, même s'ils n'avaient pas été sportifs, l'état d'esprit dont ils font preuve dans leur carrière sportive et à l'école, en réalité, ils auraient réussi dans n'importe quel autre environnement.
Simon, même question.
On a exactement les mêmes difficultés. Nous, on n'a pas du tout aujourd'hui la légitimité qu'a l'EM Lyon, puisque on existe depuis 2 ans, tout simplement. Enfin, et la seule légitimité qu'on avait, c'était d'être une classe préparatoire. Et donc, le savoir-faire qu'on a, il est sur du volume de quasiment 40 heures semaine en présence, dans une salle de classe, donc quelque chose de complètement antinomique avec ce qu'on voulait construire. Donc on a beaucoup itéré, fait beaucoup d'entretiens avec différents sportifs, et ce sur quoi on a abouti, en fait, on a regardé un peu outre-Atlantique, une école qui s'appelle Minerva, qui est créée par un ancien d'Harvard, qui est parti d'Harvard en disant je claque la porte, je trouve que cette école, elle est un peu trop verticale, les cours sont trop top-down, pour prendre un anglicisme, mais bon, c'est un américain, donc j'ai le droit. Et en plus, il y a que des fils d'eux, etc. Et je vais créer quelque chose, une école complètement en ligne, avec très axée sciences cognitives, et je vais appuyer la notation sur des compétences fondatrices qu'on lui a donc, qu'elle faisait bien de me mettre en garde, parce que je reprends allègrement les idées quand elles sont bonnes. On lui a repris ce système de compétences fondatrices. Et donc nous, c'est à peu près 80% de distanciel. On tenait quand même à au maximum avoir des moments de cohésion commune, parce que c'est quand même important pour nous de construire. Et c'est aussi ça, l'école, mine de rien, au-delà des compétences et de l'adaptation, c'était important pour nous de marquer aussi la promo à travers quelques événements qu'on appelle des séminaires. Il y en a 5 dans l'année, qui est possible évidemment en fonction des compétitions d'en rater quelques-uns, mais c'est pas le but. Et le reste du temps, c'est cours le matin à distance, c'est en synchrone le cours, mais si les étudiants, les sportifs, sportives, artistes sont pas là, ils peuvent le rattraper puisque c'est enregistré. Voilà.
Très bien. On continuera la discussion, mais on va faire la deuxième pause musicale. Celle-là, c'est Thierry qui l'a choisie. Donc pourquoi ? Laquelle et pourquoi ?
Donc c'est une chanson de Marvin Gaye, Ain't No Mountain High, assez connue. D'abord parce qu'il n'y a pas de montagne assez haute qu'on ne peut pas gravir, et donc tout est possible. Ça, c'est la première idée. Et puis la deuxième, c'est qu'elle renvoie au chapitre 15 du livre, qui est l'histoire de Mehdi, histoire extraordinaire d'un petit garçon d'un quartier qu'on qualifie de difficile, et qui regarde un film qui s'appelle Remember the Titan, avec Denzel Washington, et dont la musique, c'est la musique de ce film, et qui raconte l'histoire histoire d'un coach américain qui réunit des blancs et des noirs pour gagner le championnat, et il dit « je veux faire ça ». Et ce petit garçon deviendra coach olympique, Tokyo et Rio, aujourd'hui organisateur du taekwondo à Paris au Grand Palais, alors qu'il a été refusé quand il était petit l'entrée, voilà. Et aujourd'hui aussi entrepreneur social dans un quartier à Vaux-en-Velin, avec des jeunes, où il révolutionne complètement l'accompagnement des jeunes dans les quartiers. Donc voilà, un beau symbole cette
histoire.
Chanson.
Oui. Donc on l'écoute.
Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby.
If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far.
Don't worry, baby.
Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry.
Sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Notre émission est sur le parcours hors normes de champions qui peuvent paradoxalement nous inspirer tous et peuvent être particulièrement performants en dehors de leur carrière sportive. Nous sommes toujours en studio avec les deux co-auteurs de Dans la tête des champions qui vient de paraître aux éditions Duno, Michael Romsey, directeur des programmes sport et sportifs de haut niveau à l'EM Lyon, Thierry Pic, à l'origine du programme de la filière sport de l'école, et nous sommes avec Gary Florimont, l'un des protagonistes du livre, ancien basketteur de haut niveau, fondateur de la plateforme Atléo qui accompagne les sportifs de haut niveau en reconversion, et Simon Chaussante, cofondateur et DG de Wade, et notamment de Wade School Talent. Je crois que là, c'est en français qu'il faut que je dois le dire. Pour sportifs de haut niveau et artistes. À la fin de l'émission, je saurais bien le dire. On parlait d'Atléo. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Gary?
Mais je vais même t'en dire trois. Même plus. alors, c'est Atléo Sport.
Atléo Sport.
Atléo Sport, en fait, c'est, bah, pour moi, c'est une évidence. Ça a été comme une évidence parce que quelque part, je suis toujours dans la transmission et dans l'aide. Alors moi, j'ai jamais été attiré par le coaching ou être coach de basket ou préparateur physique. Mais néanmoins, je compte bien redonner à cet écosystème ce qui m'a donné. Et moi, ma sensibilité à moi, c'était la précarrière. Finalement, j'ai découvert en fait avec Véronique, avec Mickaël et EM Lyon et Thierry en fait l'accompagnement post-carrière. C'est quelque chose qui m'a sensibilisé parce que finalement, quand j'ai terminé mon parcours chez EM Lyon, j'avais le sentiment que certains des recruteurs, cabinets de recrutement, etc., avaient un manquement en fait sur la compréhension des athlètes et ce qui composait en fait les compétences. Et du coup, je me suis dit, et peut-être qu'il n'y a pas de référentiel finalement, parce que finalement, un sportif, il va chercher un parcours académique chez Weird, chez Weed, chez EM Lyon. Mais finalement, toute la partie, on va dire soft skills, en tout cas compétences concrétisées par sa carrière, elle n'est pas forcément connue du grand public. Et je me suis dit que là, il y a quelque chose à faire parce que finalement, être l'interlocuteur entre les entreprises et les athlètes et être cette espèce de traducteur pour eux, pour leur démontrer, leur expliquer, les accompagner dans le recrutement d'athlètes prêts. Je dis bien prêt parce qu'aujourd'hui le but c'est pas de placer l'athlète à tout prix. L'idée c'est de l'accompagner. Donc les athlètes qui aujourd'hui viennent vers moi avec un projet en réflexion, j'ai des voilà entre Mion, Collectif Sport, j'ai des personnes vers qui je vais orienter cet athlète pour qu'il puisse travailler, mûrir son projet. Et les athlètes qui sont vraiment en fait prêts à franchir le cap, bah là il y a un travail de coaching, d'accompagnement, d'identification des entreprises, parce que c'est vraiment important, parce que l'athlète qui vient me voir, il me confie, on est encore une fois dans cette dans le fait de confier quelque chose de précieux, parce que là on est vraiment sur l'après. Donc moi j'aime pas le terme petite mort, je parle plutôt de renaissance, et il me confie en fait cette renaissance. Et cette renaissance, c'est un cadeau qu'il me fait. Et là, on doit taper dans le mille. On doit trouver l'entreprise qui est prête à accueillir ce talent. Parce que c'est pas parce qu'il quitte la piste ou le terrain de sport que c'est plus un talent. C'est encore un talent, mais encore faut-il que l'entreprise soit structurée, prête et consciente en fait pour qu'il puisse s'exprimer au maximum de son potentiel.
Pour expliquer à nos auditeurs, hein, parce que on en a souvent parlé dans l'émission, mais les auditeurs ont le droit de pas écouter toutes les émissions, même si c'est pas bien ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on parle de petite mort et pour... La renaissance, tu l'as bien expliqué, mais...
Je vais parler pour... Alors moi, j'en parle pas. Hein.
Et puis,
ils vont écouter parce qu'on est super cool. Il y a des super personnes autour de la table. Je pense que celle-là, elle va être écoutée.
Mais, oui.
On parle de la petite mort parce que souvent, les athlètes le vivent mal. Finalement, il y a une perte d'identité sociale. Souvent, ce que je dis, c'est qu'on a un athlète. Moi, je suis arrivé à 15 ans de la métropole et j'ai nourri en fait le masque d'athlète. C'est-à-dire que j'ai appris à manger, parler, marcher, m'habiller comme un athlète de haut niveau. Parce qu'il y a un travail en fait de mimétisme. Moi, je voulais courir, mâcher mon chewing-gum comme Jordan, faire des bulles en courant, mais je me suis rendu compte que finalement j'étais asthmatique et je pouvais pas parce que j'étais essoufflé. Mais vraiment, il y a ce truc là où on nourrit en fait cette espèce de totem. Et à la fin de la carrière, on nous dit tiens, t'sais quoi, t'es plus bankable. Tu le prends ce masque et tu le ranges dans un sac. Qu'est-ce qui reste derrière? Ben en fait, il y a Gary Florimont en fait qui a manqué en fait de nourriture intellectuelle, de nourriture en fait on va dire même personnelle, de valorisation. Et il arrive, il est démuni face à une réalité, à un marché de l'emploi qui a ses critères, qui a ses codes, et finalement lui il est pas du tout armé. Donc en cette petite mort, je préfère dire, s'il y a une petite mort, c'est celle de l'athlète, pas celle de l'individu.
Oui, mais et l'un ne va pas s'en mettre. Il faut mieux une renaissance, on est bien.
Mais c'est pour ça que je parle de renaissance, des actions comme celle de Mickaël, de Mickaël, de Thierry et de Simon permettent justement à l'athlète d'avoir une espèce de passage comme ça, de compréhension, un sas comme ça un peu hermétique. On va l'accompagner, lui donner le temps de comprendre, de se nourrir, de développer en fait des ambitions et finalement de nourrir l'être, en fait l'homme avec un grand H derrière le masque. Et je pense que c'est des actions qui sont aujourd'hui primordiales.
C'est exactement ce que tu dis, hein. C'est qui je suis quand je suis plus un athlète. Et c'est ce travail-là, en fait, qu'on accompagne, par exemple, un sportif qui va aller dans l'entreprise ou qui va aller sur une formation, c'est est-ce que j'ai le droit déjà d'être quelqu'un d'autre que le basketteur que je suis depuis 20 ans, quoi. Donc c'est extrêmement important ce qu'il dit là, donc faut vraiment le relever, parce que tout le travail finalement d'accompagnement, il se situe ici. Et c'est ça qu'on appelle la petite mort ou la renaissance, c'est est-ce que je m'autorise à être quelqu'un d'autre que cet athlète là où je suis reconnu.
Et finalement, plus ils commencent tôt leur formation, plus ils se projettent sur l'après. Est-ce que quand tu as déjà eu des entretiens, Simon, pour ces jeunes athlètes qui sont déjà en train de penser, et c'est très bien,
à la suite. J'ai déjà eu des entretiens, mais c'est pas ça dont j'ai envie de parler. On a monté en parallèle là, avec quelqu'un que vous devez connaître, Hermano Di Micheli, qui a le média dans les vestiaires, un classement qu'on a appelé le pari des 20 U24, en référence évidemment à la petite fête de campagne qui a lieu cet été. Et donc c'est les 20 sportifs de moins de 24 ans qui vont marquer sûrement le sport de demain, et en premier lieu parce qu'ils ont un double projet. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer certains des élèves de l'EM Lyon dans ce cadre-là, notamment Ilana Rupert typiquement, qui en fait dit exactement ce que vous venez de dire tous les deux à ce titre-là. C'est en fait j'arrive à exister doublement, et en fait c'est comme ça que j'existe mieux et plus intensément dans chacune de mes parties, et en fait on comprend qui on est à l'intersection à la fois de ce qu'on fait dans le sport et de ce qu'on fait à côté. Et ça, et c'est ça qui nous permet de nous définir l'identité, c'est ce qui on est dans différents environnements. Et moi, j'étais, alors que ce soit EM Lyon ou autre, mais sur les entretiens, on en fait plein en ce moment pour ce classement, mais complètement atterré, agréablement surpris de la qualité, du niveau de maturité de tous ces candidats pour ce classement.
Faut vraiment que t'achètes le livre, hein, Simon, parce qu'il y a un Rupert, elle est dedans aussi. Ouais.
Mais moi, je rebondis juste, Karine, si tu le permets, pour juste parler de quelque chose, parce que pour moi, en fait, il y a vraiment deux temporalités, il y a vraiment deux profils. Moi, je suis en train de découvrir des nouveaux profils d'athlètes qui ont cette conscience hyper tôt, notamment justement grâce à vos actions. Mais il y a une partie aussi dont on ne parle pas, on parlait justement avant, c'est le coaching de l'entourage familial. Parce que souvent, on dit le sportif prend sa retraite, mais il n'y a pas uniquement le sportif, c'est tout son entourage, son épouse, ses enfants, qui aussi prennent leur retraite. Et souvent, l'athlète est prêt, en fait, à franchir le cas. Moi, dans mon cas, typiquement, je me suis rendu compte que finalement, c'est mon épouse et mes enfants qui, eux, étaient en train aussi d'arrêter de leur carrière parce que tout l'organisme, en fait, familial était structuré autour de ma carrière. Et moi, je me suis préparé, mais eux n'ont pas été préparés. Donc, en fait, cette réticence, des fois, ou cette crainte, elle vient de l'intérieur, souvent. Et c'est elle, finalement, qui maintient l'athlète dans « Mais tu veux pas faire une année de plus? Tu es sûr que ça va pas te manquer ?» Alors que l'athlète, lui, dans son corps, ses genoux, lui crie « Stop
!» C'est justement la transition que je voulais faire, et je t'en remercie, parce qu'on a parlé de la petite fête de Paris 2024 cet été, et que je pense qu'il y a pas mal de sportifs qui ont programmé de s'arrêter comme à la fin de chaque Olympiade. Quelles sont vos attentes à tous, rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission, mais à tous, de Paris 2024 et surtout de ce qu'on appelle l'héritage, donc l'après, ce qui nous préoccupe au plus haut point ici.
Je vais attaquer, mais effectivement, nous, le livre, on l'a imaginé comme un élément de questionnement et surtout pour re-questionner la place du sport dans la société française. C'est comment, en fait, on se sert du sport comme d'un vecteur du développement humain, finalement au service du plus grand nombre, donc, et de la société, et du mieux vivre ensemble, et de la cohésion sociale, etc. Le sport, ça reste un des derniers endroits où on se rassemble, où on partage, où on se réunit. C'est dans une société qui aujourd'hui est divisée, la montée du communautarisme, l'individualisme, la société de consommation plus. Donc voilà, on se dit que le sport, c'est un des derniers sanctuaires sur lequel on peut vraiment travailler au profit de la jeunesse, donc dans l'éducation, dans l'entreprise. Et les Jeux Olympiques, c'est un formidable coup de projecteur. Tout le monde parle plus que de sport et des sportifs. Par contre, nous, l'objet de ce livre, c'est qu'est-ce qu'on en fait demain et comment on va accompagner nos sportifs qui ont sacrifié 10, 15, 20 ans de leur vie pour finalement la possibilité d'une médaille, donc sans avoir une quelconque certitude. Et même si finalement il y a cette médaille, qu'est-ce qu'on en fait derrière? On a eu beaucoup d'exemples de sportifs médaillés pour qui l'après-carrière a été extrêmement compliquée. Donc aujourd'hui, on a des besoins en financement, des besoins en accompagnement, on a aussi des besoins à l'école de remettre le sport un petit peu au centre pour recapitaliser sur l'humain. Et donc ça, ce livre, s'il peut servir de prétexte à engager ces discussions avec la société, avec les entreprises, avec les écoles, avec les politiques, et ben nous, on est content d'apporter notre pierre à l'édifice. Et j'espère que ça sera une occasion de pas laisser le sport uniquement sur la partie spectacle, performance, médaille, mais d'en parler aussi après, plutôt en termes d'éducation, d'inclusion, de mixité. Voilà.
Thierry.
Oui, je pense que ce livre, il offre une grille de lecture, en tout cas un peu différente du sport spectacle ou du sport soft power. Hein, pour avoir une pensée un peu philosophique, je me référais à Confucius. J'aime beaucoup cette phrase qui dit que le bonheur n'est pas dans le sommet de la montagne que tu gravis, mais dans la façon que tu as eu de le gravir. Et je trouve qu'effectivement, l'épanouissement et le développement des hommes et des femmes, des sportifs ou des individus derrière les sportifs, c'est pas dans les médailles obtenues, c'est dans la façon de construire finalement un parcours. Alors évidemment, là, avec un éclairage particulier pour les Jeux, mais qui ne s'arrête pas au jeu. Et c'est un peu cette grille de lecture-là qu'on voudrait donner et qu'on voudrait expliquer un peu à tout le monde.
Gary ?
Bah, écoute, bien évidemment, moi j'ai l'héritage des Jeux. C'est ce que j'ai moi, c'est ce que moi j'ai en visuel, l'héritage des Jeux, parce que bien évidemment les champions vont être à la fête, ils le sont déjà. Moi souvent, alors je veux pas forcément être hyper positif, mais je dis souvent, moi quand je me suis rompu le tendon d'Achille, j'ai pris la conscience que j'étais un produit, parce que j'ai été un peu mis de côté, parce que bah finalement j'avais pas forcément d'intérêt, on va dire business, hein, et j'ai dit que souvent les sportifs, on est l'un des produits les plus mal recyclés en fait. Aujourd'hui, donc je dis juste voilà, je sensibilise en fait les différents acteurs pour dire que les sportifs vont être à la fête, mais pour eux ça continue.
Oui. Donc, et on retient aussi la question de l'entourage qui me paraît aussi.
Ouais, la question de l'entourage, mais je pense que c'est aujourd'hui qu'on parle tout le temps des RSE, de raisons sociétales, etc. Je pense que l'inclusion des athlètes de haut niveau, c'est aussi une responsabilité de tous. Et je sensibilise le chef d'entreprise qui attend les Jeux pour prendre son selfie, que finalement en fait cette photo ne s'arrête pas là et que finalement elle marque le début de quelque chose de peut-être plus grand pour cet athlète en question.
Merci Simon.
Moi, j'ai trouvé une phrase qui est visiblement la première phrase du livre que je vais acheter en sortant d'ici, que tu as citée, qui était le pouvoir d'inspirer, le pouvoir d'unir. Et pour aller un tout petit peu plus loin de ce que disait Michael à l'instant, en fait, ce qui est incroyable avec le sport, c'est qu'on cherche, au-delà d'aller dans la tête des champions, nous, dans notre tête, aujourd'hui, le sport, en termes de temporalité, c'est ce qui subsiste comme étant une des seules... occasion qu'on a de tous se rassembler en même temps devant la même chose. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus le film du dimanche soir, il n'y a plus différentes choses comme ça qu'on regardait avant, qui étaient des rituels pour tout le monde. Donc il y a Netflix, on regarde à peu près tous les mêmes séries en même temps, mais en fait, chacun le regarde dans son coin, à son rythme. Et donc, c'est pour ça que c'est si fort, et c'est pour ça que c'est si important. Donc c'est ça ce qu'on va voir. Et effectivement, c'est l'occasion de se rassembler, au-delà même de considérations nationales. C'est aussi pour ça que ça procure tant d'émotions, c'est que c'est vraiment... temporel, et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui et que ça, tout le monde s'agite en amont des Jeux. En ce qui concerne l'héritage des Jeux, c'est vrai que Wade va prendre naissance, même pas renaissance, en septembre prochain. C'est un parcours qui dure 4 ans, donc j'espère qu'on pourra accompagner certains champions vers la future Olympiade. Donc ce sera, je laisse à Gary le soin d'accompagner ceux qui ont fait cette Olympiade, et j'espère qu'on en accompagnera la prochaine.
On vous souhaite en tous à tous vos champions et à vous tous le meilleur. Merci à vous quatre, Gary Florimont, Simon Chaussande, Thierry Pic et Michael Romsey. Un grand merci à Jérôme Sorel pour la réalisation. Nous vous remercions pour vos annonces, remarques et questions sur le chat, sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter X et mon compte LinkedIn Karine Bloch. Je ne pourrai citer aujourd'hui toutes les annonces reçues parce que j'en reçois plusieurs par jour. Je vais en citer quelques-unes proches de notre thématique. Je voudrais citer deux livres qui viennent de paraître sur des champions également, enfin sur des championnes. Championne aux éditions Ramsay de Marie Lopez Vivanco qui était sur notre plateau en février. Le livre est en librairie depuis le 17 mai. Et championne cette fois avec un point d'exclamation aux éditions La Martinière d'un collectif de journalistes. Sur le parasport, les champions et l'insertion professionnelle, le club INSEP, Alumni et l'OCIRP nous font part de la journée Tous Unis pour le parasport, un passeport pour l'emploi qui aura lieu le 25 juin au Comité National Olympique et Sportif Français dans le 13e. Parce que c'est dans le thème une fois des pas coutumes, je vais parler d'un événement que je coanime pour Omnicité, ma coopérative d'entrepreneurs, regard croisé, sport, handicap, entrepreneuriat. Nous accueillerons Auristel Marx, double médaillé paralympique en tennis fauteuil, vainqueur de Roland-Garros ou de l'Open de France comme on l'appelait à l'époque. C'est le 4 juin à 18h au 11e lieu, 91 rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e, et c'est ouvert à tous les entrepreneurs. Sur le parasport, enfin, un des fidèles auditeurs de Cause Commune nous signale des initiatives au sujet des sourds, un livre dont il est l'auteur, Les Jeux internationaux silencieux de Paris, de Paris en 1924, on en est au centenaire. C'est aux éditions L'Harmattan, un colloque international le 13 juin au campus Condorcet à Aubervilliers. Le sport des sourds d'hier à aujourd'hui est-il un sport de combat ? Et une expo, la folle semaine des Jeux silencieux jusqu'au 5 juillet à l'Institut national des jeunes sourds dans le 5e. Pour eux et pour ceux qui nous font part de livres, colloques, films à enjeux sociétal par le sport et dans le sport, et vous êtes, je le répète, très nombreux, nous ferons au moins une émission en juin pour mettre en lumière toutes ces actions qui méritent de la lumière. Et à partir de juin, nous allons ainsi adapter nos formats et rythmes. Nous allons également donner la parole à d'autres étudiants engagés, parce que c'est l'un de nos axes. Enfin, nous vous ferons bien sûr vivre les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais sous l'angle des enjeux sociétaux et avec les acteurs à qui l'on tend moins le micro, mais qui font les Jeux. Bon sport à toutes et à tous, à très vite.
Et Lorbanodou qui accélère, Lorbanodou qui termine, Lorbanodou est championne du monde.
Pas ça, Zinedine. Oh non, oh non, pas ça.
Regardez, l'équipe de France qui fait la saga.
Attention.
Has the power to change the world. It has the power to unite people.